Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
L'église, vous savez, en tant qu'institution, en tant que vie, en tant que famille, elle croît, elle grandit. Mais souvent, j'entends que les gens disent « Ah ben, l'église grandit, aujourd'hui l'église est pleine, alors l'église, ça va bien. » Hier, elle était un peu moins, puis l'autre fois, elle était encore plus pleine, et puis là, quand on sera là, elle sera vite pleine, puis après, il faudra qu'elle soit encore... Alors là, l'église va bien, mais c'est pas que ça, la croissance. L'église croît à mesure que croissent les gens qui la composent. À la mesure que tu grandis, c'est ainsi. Et Dieu appelle chacun d'entre nous, toi, moi, c'est pas que moi qui suis responsable de ce qui se passe dans l'église. Ça, c'est du cléricalisme, du catholicisme. Et même si nous aimons nos frères catholiques, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Moi, je vais prêcher parfois chez eux, mais je suis fier d'être évangélique protestant. Je ne suis pas catholique, je ne crois pas au cléricalisme. Je crois à ce que disait Luther, que tous nous sommes appelés à être des serviteurs de Dieu. Nous avons quelque chose, car la Bible nous dit que nous devons être les gouvernants de cette terre. Dites avec moi, les gouvernants de cette terre. Nous sommes appelés à régner. Dites avec moi, à régner. Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, c'est les élections. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit de ne pas de mettre la cocarde, mais il nous dit de mettre la cocarde, la bannière de l'amour. Alléluia. Et le Seigneur nous appelle à gouverner. L'Église en France a toujours été passive. Elle a toujours cru que c'était les serviteurs qui faisaient tout. Mais j'aimerais vous dire que cette croyance est finie. Elle n'existe pas. C'est la raison pour laquelle parfois vous ne me voyez pas toujours et je ne suis plus toujours en train de vous pastorer comme je l'ai fait pendant des années. Et il y a 3 ans de relation d'aide et puis encore après, ça c'est bien. Il n'y a pas de problème, il y en a qui sont là pour ça. Et parfois c'est nécessaire. Mais le fait que nous gouvernions la terre pour Dieu, ça n'est pas une option. C'est quelque chose qui est requis pour chacune de nos vies. Alléluia. Aujourd'hui j'aimerais vous parler que vous êtes nés pour gouverner. Dites avec moi, nés pour gouverner. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Né pour gouverner. À celui qui lit correctement les Écritures et qui recherche le Seigneur. Dieu, aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu. Des fois, je prêche comme ça, je vous fais rire. Aujourd'hui, je vous ferai rire peut-être un peu, mais aujourd'hui, je voudrais plutôt qu'on aille dans. On prépare les 10 ans qui arrivent. Magali, tu pensais que tu allais te reposer, que c'était fini pour toi. Mon stage est fini. Ça veut dire que maintenant, tu vas dans la pratique. Tu n'es plus en stage, tu n'es plus stagiaire. Maintenant, tu avances. Amen. Tu as raison, ton stage est fini. Mais ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes. Sinon, je viens te chercher avec un treuil. Hein? Parce que tu travailles super bien. Hein? À celui qui lit correctement les Écritures, qui recherche vraiment le Seigneur, Dieu commence petit à petit à lui révéler des choses. Et il va commencer un des grands mystères. Attention, je vais vous parler de quelque chose qui est difficile à comprendre aujourd'hui et qui est difficile à accepter pour la chair et difficile à accepter pour notre culture. Est-ce que vous m'autorisez à prêcher ? Il n'y en a que 2 qui m'ont dit yes. Peut-être les autres ont-ils dit oui, mais je ne l'ai pas entendu. Hein? Est-ce que vous m'autorisez à partager la parole de Dieu ce matin? Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'éventuellement, il se pourrait que Dieu ait pu me parler pour nous ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais que ce message, j'espère qu'il est enregistré, puisse être une base pour les 10 années de notre Église qui vont arriver. Dans 10 ans, vous verrez ceux qui seront encore là. Parce qu'il y en a qui ne seront plus là. Mais vous verrez. Et on se souviendra d'aujourd'hui, de ce jour où le Seigneur va nous parler. Celui qui grandit et qui aime le Seigneur, Dieu commence à lui révéler des choses. Dieu a commencé en lui un travail de préparation. Non pas pour qu'il vienne à l'église tous les dimanches, non pas pour qu'il soit sauvé lui et sa famille, non pas qu'il ait simplement le salut et qu'il dise « ça va, au moins je suis sauvé, j'irai au paradis » comme on entend beaucoup. Mais Dieu commence à faire un travail de préparation pour qu'il soit un gouvernant et non plus un gouverné. Dirigé par Dieu, oui, mais gouverné par les gens, gouverné par le monde, gouverné par ses pulsions, gouverné par ses peurs, gouverné par ses tristesses, gouverné par la mentalité du monde, non ! Vous êtes avec moi, vous n'êtes pas avec vos portables. Dites avec moi, gouvernant et plus gouverné. Amen, ça vous intéresse? Attention, je vais toucher un thème qui va nous parler, je pense. Et ce thème est très spécial, car il peut lever en nous, et quand on en parle avec des gens, il lève plusieurs sortes d'émotions, des émotions différentes. Ce n'est pas un thème facile à comprendre ni à entendre, mais il est crucial. Mais il est aussi dur que crucial, parce qu'il produit dans nos vies soit un rêve, soit de la fatigue, soit une impression de ne pas savoir comment faire, et surtout de ne pas savoir ce qui va se passer pour nous. Et vous allez voir que parfois ça nous met mal à l'aise, et surtout dans ta vie, si tu le vis, c'est quelque chose qui va commencer à te mettre mal à l'aise, parce que Dieu va changer des schémas. Dites avec moi, des schémas. Vous êtes avec moi, hein? Des schémas de pensée. Et des schémas qu'on nous a inculqués depuis l'école primaire. Depuis qu'on est gamin ici dans ce pays. Et comme disait Maria tout à l'heure, c'était très beau ce qu'elle disait. Elle disait, moi je suis du royaume de Dieu. Maintenant je suis ni argentine ni française. Et ça c'est beau ça. Et on va lire dans Luc 19, verset 11 jusqu'au verset 27 dans quelques instants. Vous verrez que c'est une lecture qui requiert beaucoup d'attention. Mais ça va produire du feu. Alléluia! Qui veut du feu ici ce matin? Amen! Il y en a quelques-uns qui veulent du feu, je suis content. Qui veut du feu ici ce matin? Non, parce que j'ai dit aux États-Unis que vous étiez une église dynamique. Non, mais j'ai prophétisé. Hein? Ou alors j'ai dit la vérité. Est-ce que Dieu va produire du feu ce matin? Alléluia! Vous avez vu que j'avais raison. Alléluia, je savais bien, je savais bien. T'as vu, je t'avais dit, Maria, hein? Alléluia. Beaucoup de gens, vous savez, en comprenant la profondeur de cette réalité spirituelle, ont commencé à changer. J'en ai vu vraiment des témoignages incroyables. Ils ont tellement changé qu'ils ont obtenu des résultats extraordinaires. Leur vie n'a plus jamais été la même. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes, qui ne prennent pas garde à la parole de Dieu, ni à leur attitude. Il y a tant de gens qui prennent encore moins garde du plan de Dieu pour leur vie. Dites avec moi le plan de Dieu pour leur vie. Dis-le bien fort, le plan de Dieu pour leur vie. Et puis, ce faisant, ils commencent à vivre une vie qui les trompe. Une vie qui va leur faire souffrir. La parole de Dieu n'a pas de place en eux. Et ensuite, on les voit souffrir. On les voit batailler terriblement. Eux qui étaient des bons chrétiens, vous les voyez tous les dimanches. Ils étaient là, ils louaient le Seigneur, ils sautaient plus haut que tout le monde. Même plus haut que Anthony Montera qui est ici, vous imaginez. Soudainement, on leur voit, leur vie se casse la figure. Il y a, disons, des grandes déconfitures. Ce n'est pas la période. Enfin. Et des chutes si horribles qu'on se dit, comment cela est possible? Vous avez déjà croisé des gens comme ça? Qui criaient tellement fort, alléluia. Ils étaient tellement bons, on les aimait tellement. Ils aimaient tellement le Seigneur Ils sont là, puis on voit des chutes horribles, si horribles qu'ils perdent leur famille. Plus tard, ils perdent leur entreprise, ils perdent leur argent, leur mariage. Souvent aussi, ils perdent leur morale, alors que c'était des gens qui étaient à la pointe de la moralité, à la pointe de l'obéissance. Ils perdent finalement leur vie spirituelle. Mais vous savez, le seul qui recherche cela dans nos vies, le seul qui recherche ce genre d'avenir pour moi, pour toi, c'est Satan. C'est le seul qui cherche ça. C'est pas ton pasteur qui peut-être parfois te reprend, ni même ton époux avec qui tu es en bisbrouille, peut-être. Le seul qui cherche à nous détruire, à voler, à tuer, à disperser, à détruire, selon Jean 10, verset 10, c'est Satan qui vient, le loup qui vient détruire les brebis. Mais notez bien que dans le même verset, dans Jean 10, verset 10, est-ce que vous aviez déjà remarqué que dans le même verset, Jésus, lui, au contraire, contredit le plan de Satan en disant « Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. » Alléluia ! Vous avez le droit d'acclamer la parole de Dieu. C'est merveilleux. Regardez comme dans le même verset, il y a le plan de Satan pour ta vie, pour ma vie, et il y a le plan de Dieu pour ma vie et pour ta vie. Satan veut détruire, diminuer, appauvrir. Et Jésus dit, moi je viens pour te donner la vie et que tu l'aies en abondance. Mais il est incroyable de voir combien de chrétiens ne cherchent même pas une vie en abondance. Ils sont contents avec ce qu'ils ont. Ils sont sauvés, ils disent c'est bien. Je suis à l'église, c'est bien. J'ai ma petite vie chrétienne, c'est bien. J'ai découvert la foi déjà. Hein, comme on dit, je bois pas, je fume pas, je baisse pas. Hein. Un peu plus tard que Jean 10, quand Jésus voit Satan tomber du ciel, il dit « Je vois Satan qui est tombé comme un éclair. » Dites avec moi, il est tombé. Je voyais, il dit à ses disciples, il regarde, il dit « Hé, Les jeunes là qui commençaient, les pauvres disciples, ils savaient que se chipouiller, que ils n'étaient pas très sanctifiés au début de l'école biblique Jésus-Christ. Hein. Quand on regarde, ils avaient de la compétition entre eux, etc. Mais quand un jour ils rentrent comme ça, ils ont fait de l'évangélisation et ils sortaient, parce que ceux qui n'évangélisent pas verront jamais la gloire de Dieu, mais ceux qui vont chercher des âmes perdues, ils verront la gloire de Dieu, car Dieu sera avec eux. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Et ça, c'est une information. Ce n'est pas une lecture biblique qu'on passe comme ça. C'est une information, dis avec moi, une information. Vous ne le dites pas. Dieu est en train de te dire, Dieu est en train de me dire, hé, hey, Satan, je l'ai vu, il est tombé, il est déchu comme un éclair, il est tombé du ciel, là où il était en gloire, il est déchu de son trône, il est tombé, c'est réalisé, Satan est vaincu, alléluia! C'est une information, c'est une réalité, c'est une puissance. Cette information nous donne le droit de dire à Satan, nous-mêmes, Satan, je sais que tu es tombé, je sais que tu es vaincu. Tu es tombé comme un éclair tombe du ciel. Alléluia. J'ai reçu l'information de Jésus même. Il me l'a dit de ses yeux vus. Et si lui, il m'a dit, Satan, c'est que tu es déçu. Alléluia. Vous comprenez? Mais il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience de cette autorité qui nous est revêtue pour dire, Satan, tu es déçu dans le problème que je confronte. Satan, tu es déçu. Et déçu, oui, aussi. Jésus, non, il est déçu. Il aurait bien aimé n'être pas déchu. Mais voilà qu'il l'est. Il est déchu de ma vie. Il est déchu du style de vie qu'il voulait te faire vivre, me faire vivre. Ce qu'il avait prévu de faire pour moi, pour finalement accomplir Jean 10, verset 10, détruire, voler, c'est déchu, c'est fini, c'est vaincu. Et nous savons qu'il est vaincu. Écoutez-moi bien, nous savons qu'il est vaincu. Et lui, le diable, il sait que nous savons qu'il est vaincu. Vous avez compris? Il sait, lui, le diable, que nous, les chrétiens, nous savons qu'il est vaincu et que nous nous battons pour une victoire qui est déjà acquise. Alléluia! Oui! Nous nous battons pour quelque chose dont nous connaissons l'issue. Moi, tous les jours, maman, on annonce des mauvaises nouvelles. Parfois, c'est le permis de construire. Parfois, c'est les banques. Parfois, c'est si il y aura des problèmes. Et à chaque fois, ils me disent, tu continues quand même. Mais s'il est vaincu, si le plan de Dieu est oui et amen, alors moi, je continue. Il est vaincu. La seule chose, c'est qu'il faut lui rappeler de temps en temps. Il faut lui rappeler. Alors, s'il est tombé, c'est qu'il ne peut pas être supérieur à celui qui est encore debout.
Simple, hein, ce que je vous dis. C'est tellement simple que personne ne le réalise.
S'il est tombé, il est sous nos pieds, ben, il n'est pas sur moi, au-dessus de moi. Il n'est pas en face de moi en train de faire. Il est vaincu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a 10 ans, je vous ai donné ce verset pour commencer l'église. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a des gens qui disent, oh, votre pasteur, il est ambitieux. Bien sûr qu'il est ambitieux. Il veut la gloire de Jésus-Christ. Et il veut vivre une vie de gloire. Et il veut vivre une vie de victoire. Depuis quand c'est un péché d'être ambitieux pour Jésus? Ah, il veut de l'argent. Bien sûr, je veux de l'argent. Parce qu'avec l'argent, vous savez ce qu'on va en faire?
Bien sûr, si c'est pour moi, là, c'est une mauvaise volonté. Mais vous savez ce qu'on va en faire de cet argent? Purée, le diable, il va savoir ce qu'on va en faire. C'est pour ça qu'il veut qu'on n'en ait pas. Il veut que tu sois pauvre, que tu vives au RMiste. Et toi, en tant que chrétien, tu crois encore ça. Ben, dis donc.
Alors, celui qui est déchu, qui est par terre, puisqu'il est par terre, il ne doit pas dominer sur celui qui est debout et qui marche. Celui qui est fort, celui qui est armé. Et comme il sait que nous le savons, le but de Satan, c'est de nous faire oublier. Dites avec moi, nous faire oublier. Et de nous distraire. Du fait que nous sachions que de toute façon il est déjà vaincu et que nous prenions toutes les armes nécessaires et l'attitude de vie pour le dire encore à tout le monde. Et pour le démontrer aux gens. Ah, il dit, purée, ceux-là, ils savent déjà l'issue de la bataille. Ils savent que mon procès est déjà perdu. Je vais faire de l'esbrouf. Je vais essayer de leur faire peur, de mettre les médias, de faire tout ce que je veux, des enquêtes, tout ce que... Je vais leur faire des pulsions. Parce qu'il ne veut pas que nous entrions dans cette vie même qui va manifester aux yeux du monde sa défaite absolue. Parce que Jésus règne, Jésus règne déjà, Jésus règnera et Jésus est notre Seigneur et il sera aussi Seigneur de notre pays. Alléluia. C'est pour cela aussi qu'il veut que nous tombions. Que nous nous détournions de ce qui est notre force, de ce qui est notre foi. Et qu'ainsi, nous croyions encore, nous venions à croire, nous parvenions à mettre notre foi dans le fait que Satan est fort, qu'il est plus fort que nous, qu'il est plus puissant, qu'il va nous arriver un problème, qu'il va nous arriver des malédictions, et qu'il y a des pulsions qu'on ne peut pas vaincre, et que Dieu n'est pas assez puissant, et que sa parole n'a pas tout accompli, et que son sang est imparfait. Voilà ce qu'il essaie de faire dans la vie des chrétiens qui n'ont pas pris la position de ceux qui gouvernent, mais de ceux qui restent comme ceux qui ont toujours été des gouvernants, des esclaves, des gens qui sont dominés par la volonté d'autrui. Il veut que nous oublions que Christ est plus grand, plus fort, alors qu'il nous appartient de nous défendre et d'apprendre à lui dire, à lui faire, à vivre une vie qui démontre que de toute façon, il a beau parfois nous mettre des belles claques et nous faire perdre des batailles, la guerre, on la gagnera de toute façon. Et comme disait Maria tout à l'heure, elle m'a beaucoup ému tout à l'heure en disant cela, que je perde ou que je gagne, que je sois ruiné ou que je sois riche, que j'ai des victoires ou que je n'ai pas de victoires, de toute façon, je suis heureuse, alléluia. Et moi j'ai déjà gagné parce que j'ai gagné Jésus-Christ, j'ai tout gagné, alléluia. Tu as tout gagné, qu'est-ce que tu cherches encore? Alors il veut que nous oublions le fait d'appliquer toutes les méthodes, les précieuses méthodes, les techniques, l'obéissance de la foi, l'obéissance, dites avec moi, l'obéissance de cette foi, parce que nous le savons, et il le sait, de toute façon, nous le ferons tomber. Comme il est tombé dans la vie de Jésus-Christ, il a été vaincu par le second Adam, comme il est tombé dans le plan universel, eschatologique, ça veut dire celui de la fin des temps, de l'avenir, n'est-ce pas ? Il est déchu du plan eschatologique de ta vie. Il faut qu'il soit déchu de ta vie, de ton expérience de vie, de la mienne. Mais nous ne pouvons pas faire cette bataille par nos propres forces, parce qu'elle risque fort, à mon avis, en tout cas si je considère ma propre force, d'être insuffisante. C'est vrai que tout seul, je n'ai pas l'impression que je puisse l'effrayer très longtemps. En revanche, Christ en moi, l'espérance, la certitude du jugement de Satan, de sa déchéance. Alléluia. Alors on va lire un texte merveilleux ce matin. On va lire la parole de Dieu. Je sais que on a un peu de temps ce matin et c'est pourquoi je vais prendre du temps pour la parole de Dieu. Vous m'autorisez, ma chère Église, ça fait longtemps que j'étais pas là, il faut bien que vous m'entendiez un petit peu. Et puis, ça m'a tellement manqué. Vous savez, je voyage dans le monde entier. Parfois, il y a des foules extraordinaires, des stades. Je montrerai des vidéos parce qu'on a quand même quelques vidéos. Vous pouvez regarder sur Pentecôte ou alors sur le truc d'un nouveau temple à Honfleur, vous verrez. Ah, on pourrait donner à l'église mettre le nouveau temple de Honfleur, comme ça, ils verront un peu le ministère extérieur. Parce que comme j'aime pas trop dire, comme ça, ils verront un peu les vidéos. Hein, si on peut faire ça, Sébastien, tu auras la gentillesse de faire cela. Mais là où je préfère prêcher, c'est ici. Hein. C'est toujours ici avec vous j'essaie de vous donner, comme un père essaie de donner le peu qu'il a. J'espère que ça puisse un jour vous enrichir, ne serait-ce qu'un petit peu. Et si ma petite vie aura servi à vous aider un peu, alors ça valait largement la peine. Mais n'oubliez pas que c'est Christ, et c'est la parole de Dieu qui enrichit. C'est Christ, notre salut. C'est Christ notre gloire. Alléluia. Alors qu'ils écoutaient les disciples, il ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem. Je vous rappelle qu'on est dans Luc 19 à partir du verset 11. Et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Dites avec moi à l'instant. Ça veut dire quoi? Maintenant. Dites avec moi maintenant. Ça veut dire tout de suite. Mais vous ne le dites pas. Pourtant vous le dites souvent dans vos prières. Seigneur, pourvois tout de suite. Non ? Seigneur, un mari, tout de suite. Seigneur, une femme, tout de suite. T'as l'argent, hein ? Seigneur, une église, tout de suite. Seigneur, donne-moi la paix, tout de suite.
Enfin bref, les disciples, ils étaient un peu comme ils étaient. Et il veut leur parler un petit peu. Il leur dit, un homme noble, de haute naissance, s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté. Une autre traduction dit le règne. Dites avec moi le règne. Et revenir ensuite. Vous vous souvenez que la première prière que le Seigneur nous invite à faire, c'est que ton règne vienne. Vous savez ce que ça veut dire? On va en parler beaucoup dans les prochains temps. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? L'année dernière, je vous ai beaucoup parlé, il y a un temps pour... Vous vous souvenez de ça, hein? Et là, on va parler un peu du règne. Il dit donc, cela est... Il appela 10 de ses serviteurs pour, et il leur donna 10 mines. Et il leur dit, faites valoir, des mines, c'était beaucoup d'argent à l'époque, hein. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les fructifier. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour lui dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Et lorsqu'il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir, l'avait fait fructifier. Une traduction dans une autre langue dit l'avait négocié. Dites avec moi, négocié. Encore une fois, négocié. Il y en a plein qui ne le disent pas, purée, vous voulez rester quoi? Négocié, dites avec moi, négocié. Le premier vint et dit, Seigneur, la mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint, il dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint, il lui dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, tu sais, tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour, j'aurais retiré avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-le à celui qui a 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, et il a déjà 10 mines. Quand je lis ça, j'ai l'impression de voir du populisme ou de la France. Mais Seigneur, tu vois, le petit pauvre qui est là, il a besoin quand même plus que moi. Moi, je suis déjà bien, Seigneur, je suis déjà béni. Pourquoi c'est à lui qu'on doit ôter la seule mine qu'il avait? Et en plus, il faut la donner à celui qui en a déjà plein. Je vous ai dit qu'on va rentrer dans une leçon. Une révélation spirituelle. Vous êtes prêts ou pas? Elle commence par ce texte. De Jésus lui-même. Ce n'est pas Freddy qui vous prêche. Hein. C'est Jésus. Je veux diminuer pour que Christ paraisse ce matin dans nos cœurs. Je vous le dis. Vous vous souvenez que Jésus, c'est le Verbe. C'est la parole faite chair. Vous vous souvenez de cela? Vous avez compris cela, la révélation. Dans la révélation christologique. Donc quand Dieu dit « ainsi soit-il » et que Jésus dit « je vous le dis », c'est un synonyme. Hein. Ça veut dire que rien ni personne ne changera cette loi spirituelle et cette loi dans la vie qu'on va décrire maintenant. Vous êtes prêts à l'entendre? « Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est scandaleux à notre esprit français. Hein. Mais vous ne pourrez rien y changer. Que le Seigneur parle à chacun de nos cœurs comme il me parle. Je vous le dis, ainsi soit-il. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je pourrais m'arrêter là, mais je voudrais quand même juste vous lire la conclusion de la parabole du Seigneur. Au reste, amenez-moi ici mes ennemis. Alors qu'au début du texte, ils étaient ses amis, ceux à qui il avait donné beaucoup d'argent. Maintenant, il les appelle, mais amenez mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, égorgez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta à Jérusalem. Alléluia. savez, lorsque Jésus présente cette parabole à ses disciples, il avait un but. On le voit au verset 11. C'est que ses disciples pensaient que le royaume de Dieu allait venir à l'instant. Dites avec moi, à l'instant. Le royaume de Dieu, l'action de Dieu était maintenant, elle était visible. Il se passait beaucoup de choses et ils pensaient que ça y est, c'était maintenant. Le réveil venait, le gouvernement allait changer maintenant. Et comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui recherchent un Dieu de l'immédiat, un Dieu de Seigneur, maintenant, réponds-moi, sinon je te quitte. Réponds-moi maintenant. Tout de suite, Seigneur, si tu m'aimes, donne-moi. Seigneur, si tu m'aimes, il faut que le règne vienne maintenant. Ma prière soit exaucée maintenant. Et beaucoup de gens cherchent que la manifestation de Dieu soit immédiate. C'est maintenant, immédiatement, immédiatement. J'entends tellement de gens comme cela. Cette parabole, alors, concerne l'immédiateté de la manifestation du royaume de Dieu. Et le Seigneur ici veut que les mentalités de ses disciples changent vis-à-vis de cette conception que le royaume de Dieu doit venir maintenant. Dites avec moi, cette conception, cette croyance, dites encore plus fort la croyance, que le règne de Dieu, ici pour eux-mêmes et dans le pays et même dans leur propre vie, doit venir maintenant. Ce mot immédiatement en réalité, ou à l'instant qu'on lit dans une autre traduction que je vous ai lue tout à l'heure, révèle l'anxiété. Car celui qui veut tout immédiatement prouve qu'il est anxieux. Il ne voit que son problème immédiat, son problème bancaire si c'est un problème bancaire, son problème spirituel si c'est un problème spirituel, son problème de couple si c'est un problème de couple. Il est anxieux. Je veux vivre quelque chose maintenant. Il faut que ça arrive maintenant. Et ce maintenant, cette volonté de l'immédiat, cette recherche du tout de suite, en fait, c'est ce qui est même générateur d'anxiété, de stress. Parce que quand il n'y a pas de maintenant, on est cool. C'est ceux qui veulent tout maintenant, qui ont besoin maintenant, qui identifient leurs besoins comme étant immédiats, qui vont vivre cette anxiété. Et même si cette volonté de changement n'était pas mauvaise en soi, les disciples voulaient vraiment que le règne de Dieu change, que le Seigneur puisse gouverner leur vie et gouverner le pays. Ils savaient que c'était vraiment la volonté de Dieu. Mais elle démontrait que ses disciples étaient fatigués politiquement. Ils étaient fatigués du joug de l'Empire romain, ce qui est le symbole du monde, n'est-ce pas, et de l'esclavage, des mentalités, de la pensée du monde. Ça, c'est bon. Mais ils attendaient un autre type de gouvernement. Et s'ils l'attendaient, ils voulaient que ce soit un gouvernement qui soit guidé, inspiré par Dieu. Et pour cela, ils font le bien. Et c'est pourquoi Jésus va prendre la peine quand même, non pas de les envoyer bouler comme ça d'un revers de manche, mais il va prendre la peine de leur expliquer longuement par cette parabole qui va les faire réfléchir, pour ceux qui voulaient réfléchir, pour leur montrer une parabole contextuelle qui s'inscrit dans leur contexte, de cette anxiété qui les anime, de cette peur qui les anime. Et cette anxiété, cette parabole contextuelle, et le but, c'est qu'ils puissent comprendre que l'immédiat n'est pas ce dont ils avaient besoin. Le maintenant qui leur ferait, qui les soulagerait, dites avec moi, soulagerait, n'était pas aux yeux de Jésus ce qu'ils avaient réellement besoin. Et Jésus veut leur apprendre à ne pas chercher ce qui soulage, mais de ce dont on a besoin. Vous comprenez la différence ? Combien de gens disent, bah, moi, maintenant que j'ai pris cette décision, je ne viens plus, ou je ne fais plus ci, ou je suis soulagé, j'ai la paix. Mais ce n'est pas une paix, c'est une accalmie. La paix vient de ce qu'on fait, ce qui est correct, pas ce qu'on fait, ce qu'on sent. Car au plus on fait ce qu'on sent, au plus on se ment, le sentiment. Il faut donc comprendre la réalité du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est le règne de Dieu? C'est que Dieu, l'immédiat, ce n'est pas ce que Dieu a pour nous. Le tout de suite n'est pas ce que Dieu a pour vous, toi. Le maintenant, à l'instant, n'est pas le cadeau de Dieu pour toi. J'aimerais te le dire. Ça, c'est le cadeau du monde pour toi. Le monde, c'est le monde de la fulgurance, du loto, du gagner tout de suite, du plaisir sexuel tout de suite, d'échangisme, de faire du sexe tout de suite parce que tu as besoin de te soulager, de pas demander, de manger tout de suite si tu as faim, de donner, de prendre quand tu as besoin. C'est la satisfaction, ça c'est le cadeau du monde, c'est la vie du monde, c'est ce que le monde te promet et c'est très attrayant parce que ça soulage. Et ça fait du bien. Un bon petit péché, ça fait du bien par où ça passe. Mais après.
Et Dieu veut montrer aussi aux disciples que le royaume de Dieu, ça n'est pas pour nous faire du bien, c'est pour que nous soyons bien. Et plus que nous soyons bien, avant que nous soyons bien, que nous fassions le bien, et donc que nous soyons bien. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans quelques instants. Au verset 14, on voit bien que les gens n'étaient pas contents que Dieu avait plus pour ce noble. C'était déjà un grand homme d'affaires, un homme qui avait réussi d'une haute famille. Mais Dieu avait plus pour lui encore. Alléluia. Dites avec moi, plus. Qui ici croit que Dieu a plus pour lui? Alléluia, j'espère que vous croyez quand même encore ça. Hein? Dieu a plus pour moi, dis-le bien fort, Dieu a plus pour moi. Oh, vous le dites pas fort, moi j'ai envie de le crier sur les toits, Dieu a plus pour moi. J'aimerais prévenir les jaloux, Dieu a plus pour moi. J'aimerais prévenir ceux qui comparent et qui disent, ah là là, mais lui, hey, Dieu a encore plus pour moi, alléluia. Un jour j'ai dit ça à un jeune qui s'est converti, même un jeune qui s'est fait baptiser au tout début de l'église. Je lui ai dit, je sais que Dieu va me donner beaucoup, beaucoup d'argent. Il est parti de l'église, il était choqué. Parce que lui, il croyait que c'était de l'argent pour moi. Mais moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le royaume de Dieu. Il n'avait pas compris. Et j'aimerais vous dire, Dieu va me donner encore plus. Vous savez, le zénith l'année prochaine, Dieu va me donner plus. Les stades, vous savez, Dieu va me donner plus. J'espère que tu crois ça. Moi, en tout cas, je voudrais que dans mon église, on croit ça. Amen. Jean-Michel, tu n'as jamais été commercial. Dieu va te donner plus. Alléluia. Est-ce que tu peux croire ça? Est-ce que tu crois que tu peux péter la baraque à Honfleur? Est-ce que tu crois que le royaume de Dieu peut faire de toi le commerçant le plus excellent de Honfleur? Alléluia! Il ne faut pas regarder tes fiches de paye passées, il faut regarder ceux de l'avenir, ceux que tu vois dans le monde invisible. Combien de zéros tu vois? Je ne suis pas en train de vous parler de la prospérité, je ne crois pas au l'évangile de prospérité, mais je crois que Dieu nous rend prospères. Dieu veut plus, parce qu'ici il le prouve, Dieu voulait plus pour cet homme qui avait déjà beaucoup, car c'était déjà un homme de haute famille, c'était un grand homme d'affaires. Et les gens, ils étaient jaloux, ils étaient pas contents. La Bible dit au verset 14, il haïssait cet homme. Et il y avait de la résistance, il ne voulait pas recevoir son règne, il ne voulait pas que ce soit lui qui gouverne pour eux, sur eux. Il y a eu une sacrée résistance. Mais la résistance n'a pas triomphé. Moi, quand je voyais ce verset 14, je voyais nos 10 ans d'existence, Anne-Marie. Il y a eu de la résistance. Ils ne voulaient pas qu'on arrive, ils ne voulaient pas qu'il y ait des protestants, ils ne voulaient pas. Et puis maintenant, ils disent que c'est nous qui sommes en train de prendre la place de ceux qui ont régné sur Honfleur tout le temps. Alléluia. Cet homme, il est quand même allé et il a quand même reçu le règne parce que c'était la volonté de Dieu, parce qu'il l'a cru et parce qu'il a accepté le règne dans sa vie. Dites avec moi, il a accepté le règne dans sa vie. Remarquez qu'il a dû partir dans un pays lointain, dit la parole. Vous avez remarqué ça? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas rester dans la mentalité qui était la sienne présente. Il ne pouvait pas rester dans l'éducation académique qu'il avait reçue jusqu'à présent. Il ne pouvait pas rester dans sa manière de compter qu'il avait eue jusqu'à présent. Et avec les gens qu'il était jusqu'à présent, il a dû aller dans un pays lointain. Il a dû s'étendre. Il a dû croire. Il a dû s'étirper. Il a dû se remettre en question. Il a dû souffrir. Ses pieds ont dû toucher la poussière. Mais il a dû partir. Parce qu'il croyait qu'il allait être couronné, qu'il y avait un règne pour lui, qu'il y avait un avenir pour lui, qu'il y avait une réussite pour lui et qu'il y avait une autorité pour lui. Alléluia. La résistance n'a pas transformé, rien n'a pu l'empêcher, n'a pas triomphé. Celui qui est allé, celui qui s'est bougé, celui qui est parti, celui qui a pris du travail, celui qui a pris sa destinée en main, c'est celui qui a reçu les responsabilités. C'est pas les autres. Et la Bible nous dit au verset 14, nous ne voulons pas même, dit-elle, que celui-là, avec dédain, ou haine, ou je ne sais quel sentiment, règne sur nous. Ah, moi, ce texte, il m'excite. J'ai pas d'autre mot. Il me plaît. Nous ne voulions pas que celui-ci règne sur eux. Combien de fois l'ai-je vécu, je crois, dans ma vie, puis ça va continuer. On me regardait avec dédain en disant, j'appuie sur un bouton, je sais tout, et on ne veut pas vous piller. Non, même pas, bon, bref, je vous dirai pas. Hein. Mais nous ne voulions pas que celui-ci règne sur nous. Ce n'est pas qu'on cherche du pouvoir pour nous-mêmes, mais le Seigneur nous appelle à être des gouvernants, des régnants. Nous régnerons avec lui, pas seulement là-haut dans les lieux célestes, parce qu'il y en a ici dans cette salle qui ne régneront jamais là-haut. Ceux qui n'ont pas appris à régner ici, qui n'ont pas la mentalité de règne, ils ne seront pas comment régner là-haut.
et même sur cette terre, j'aimerais vous savoir, je ne sais pas quelle est votre eschatologie, votre compréhension de la fin des temps, mais ce n'est pas fini ici. Moi, je n'ai pas envie d'être le balayeur hein, pendant 1000 ans. Il ne faut pas croire que le salut, c'est suffisant. Le salut, ça suffit pour être sauvé, mais pas pour avoir récompense, pas pour avoir une belle vie. Ensuite, c'est biblique, même si c'est choquant parfois dans notre tête socialo-populiste. Je ne veux pas faire de politique en employant ces termes. Ce n'est pas mon rôle de faire de la politique dans une église. Mais ce texte me réjouit parce que, Jean-Michel, ils ne veulent pas, hein, ils veulent pas qu'il arrive ce mec-là. Hein. Ils n'en veulent pas. Hein. Vraiment, la dernière chose qu'ils auraient voulu là, dans cette ville-là, dans cette région-là, parce que c'est une grande région dont on nous parle, ici dans la parole de Dieu. Mais ce qu'ils craignent, c'est ce qui va leur arriver. Ce qu'ils craignent, ce qu'ils disent, nous ne voulons pas, c'est décidé dans le ciel, c'est ce qui va leur arriver. Et ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas de vous, qu'ils ne veulent pas de l'autorité des chrétiens, qu'ils ne veulent pas l'autorité du royaume de Dieu, de l'évangile dans la constitution européenne, des 10 commandements pour gérer, pour être le fondement de notre droit français, etc. Ça n'est pas parce qu'ils ne veulent pas de nous ni de l'évangile que vous ne représentez pas et que vous n'êtes pas ce qu'ils auront quand même. Alléluia. Et si vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi ils vous craignent. Parce que leur père, c'est le diable qui les inspire. Et c'est pour ça qu'il veut que vous ne compreniez pas qu'il est déjà déchu et que c'est vous qui êtes déjà des régnants dans le cœur de Dieu. Alléluia ! Est-ce que vous comprenez l'évangile ? Ils ne veulent surtout pas. Ils haïssent parfois, comme dit la parole de Dieu. L'évangile est inimitié, mais c'est quand même ce qui va leur arriver. Alléluia. Car le règne nous appartient. Alléluia. Le règne de Dieu nous appartient. Et ça, dans la perspective de l'évangile, c'est excitant. Moi, ça me donne toute l'énergie pour servir mon Dieu. Ça me donne le but de ma vie, rien que de voir que ce verset 14 va arriver et qu'il est déjà en train d'arriver, en tout cas pour ma vie propre, lorsque les hommes politiques me téléphonent pour me demander de participer à certaines fonctions. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ils pourront même envoyer des ambassades, comme au verset 14, pour dire, nous ne voulons pas des représentants, des grévistes, des syndicalistes, même les plus professionnels des syndicalistes. Ils peuvent faire toutes les grèves qu'ils veulent. Ils peuvent bloquer les trains. Si nous sommes fidèles, perspicaces, tenaces, nous ne serons que les spectateurs de leur déception, tout comme le diable est déjà spectateur de ce qui va déjà lui arriver. Alléluia. Il est vaincu dans ma vie. Il est vaincu dans la vie de mes filles. Il est vaincu dans la vie de ma femme. Il est vaincu dans la vie de mon église. Si tu es fidèle, alléluia. Il est vaincu. Alléluia. L'autorité, il faut y croire. Et c'est surtout un exercice. Et Dieu veut nous donner cette autorité. Une autorité d'amour. Dites avec moi, une autorité d'amour. Mais une autorité quand même. Là où il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de corps. Vous pouvez lire mon livre, car je sais que beaucoup n'ont pas eu encore la chance d'avoir les moyens de l'acheter, ou d'avoir eu la chance, d'avoir eu le désir de le lire. Mais je sais que cette chance arrive bientôt parce que c'est une grâce qui vous est donnée de Dieu. Amen. Et que très bientôt, vous allez prendre le règne qui vous appartient, j'en suis absolument persuadé. Alors, je sais que je tarde un peu. Mais on a le temps, on fait la fête. Est-ce que tout le monde va partir à midi ou est-ce que je peux prêcher? Amen, on mange ici, hein, c'est pour ça, on fait la fête. Alors, s'il vous plaît, faites un texto. C'est le seul texto que je vous autorise à faire dans l'église pour dire que vous serez peut-être un peu en retard aujourd'hui. Et faites ce texto dans la vision eschatologique de votre vie et non pas dans la vision de l'immédiateté. Faites ce texto dans la vision du règne parce que quelque chose aujourd'hui peut changer dans votre vie. Car Dieu a décidé de parler aujourd'hui à la France. Amen. Et à notre pays. Et à ma vie. Et à ta vie peut-être. Alors, dans ce texte, il y a 3 dimensions de l'intervention de Dieu et du règne de Dieu. Alors bien sûr, on peut prêcher de 1000 et 1 manières sur le règne de Dieu. On peut prêcher sur la réalité sociologique, la réalité eschatologique, la réalité vocationnelle, etc. etc. Bon, ça c'est de la théologie. On ne va pas faire ça ce matin. Mais je vais aborder 3 points. Qui est l'aspect eschatologique. Je sais bien que vous aimez bien les mots compliqués. Ça veut dire l'eschatologie, c'est l'étude un peu de ce qui va arriver dans l'avenir, de la fin des temps, des événements qu'on ne peut pas contrôler. Et donc ça va nous arriver. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Après la mort, il y a une vie. Et si on ne s'y prépare pas, je vous assure que l'enfer, c'est très long quand on est mal placé. Non, pardon, l'éternité, c'est très long quand on est mal placé, c'est ce que je voulais dire. L'éternité, c'est très long quand on est mal placé. L'aspect de la vocation et l'aspect de la récompense. Dites avec moi l'aspect eschatologique, la vocation et la récompense. Encore une fois, eschatologique, l'appel ou la vocation, n'est-ce pas, et la récompense. Qui dit avec moi la récompense? Qui aime les cadeaux? Qui aime les récompenses? S'il y en a un qui me dit qu'il n'aime pas, c'est un sacré menteur. C'est un sacré menteur. Moi, je le crois pas. Moi, j'aime beaucoup les cadeaux. Vous pouvez m'en faire autant que vous voulez. Je me lasserai jamais. Amen. Dans cet aspect eschatologique, le Seigneur nous présente une vérité de l'espérance. L'espérance, c'est aussi un synonyme de l'attente. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui attendons quelque chose ou est-ce qu'on n'attend plus rien de la vie? Est-ce qu'on n'attend plus rien de Jésus? Est-ce qu'on n'attend même plus son retour? Vous avez vu combien de fois, si peu de fois même dans notre église, nous parlons « Viens Seigneur, viens » alors que Dieu nous a invités à prier comme cela dans toutes nos prières. « Viens Seigneur Jésus, viens bientôt. » En méditant, en préparant ce travail, ce message, je me reprenais moi-même en disant « Combien de fois dans ma prière est-ce que je dis « Viens Seigneur Jésus, viens » ?» Très peu de fois, je vous avoue, je le confesse. Mais celui qui, cette attente, cette espérance de l'avènement, c'est celui qui s'est mis en marche, qui est allé, qui a reçu le règne. C'est parce que ce serviteur, il a bougé de chez lui, il savait, il espérait, il attendait que quelque chose allait arriver. Et c'est celui qui espérait qui va obtenir et c'est celui-là même qui va revenir. Celui qui attend, c'est celui qui reviendra. On peut dire aussi, dans la réalité eschatologique de Jésus, celui qui est parti, celui qui est monté au ciel, c'est celui qui va revenir. Est-ce que vous savez ça, qu'il va revenir? Et qu'il va revenir non pas pour te dire « Oh mon coco, on va faire des guilis ». Il va venir pourquoi? Pourquoi? Non, il y en a qui disent pour nous chercher bien sûr, mais pour te chercher, pourquoi faire? Pour juger? Non, elle a raison, juger. Tu crois que tu régneras avant de passer dans le trône du jugement? Je ne veux pas vous faire peur. Mais il y a une réalité eschatologique. Dieu vient nous rechercher. Alléluia, moi je vois beaucoup de chrétiens. Il vient me chercher. J'imagine après, quand deux secondes plus tard, parce que ça va vite, hein, n'est-ce pas? Il arrive là-haut, tu vois, il arrive, salle de tribunal. Oh, je ne savais pas que c'était comme ça le ciel. Mais la Bible dit, il vient nous chercher pour nous, pour juger nos œuvres. Parce que nos péchés ont déjà été effacés, mais maintenant il va juger nos œuvres. Il y a des gens qui croient que ça y est, je suis sauvé, c'est bon. On n'est pas sauvé par nos œuvres, ça c'est sûr et certain, c'est ce qu'on prêche. Le salut n'est pas par les œuvres. On est protestant. Mais en tout cas, nos œuvres vont être jugées quand même. Tu es d'accord avec moi, pasteur? Hein? Cette vérité, c'est que l'attente de celui qui revient ne justifie pas le manque de productivité. Dites avec moi, productivité. Et encore moins l'absence de résultats. Ça ne justifie pas. Parce que celui qui va revenir attend de nous que pendant son absence, quelque chose se passe. C'est ce qu'il a, il va expliquer à ses disciples. La perspective eschatologique, c'est donc que nous avons tout intérêt, dites avec moi, nous avons intérêt, et j'aimerais qu'on le comprenne, à être certain qu'il s'en est allé, mais certain aussi qu'il va revenir. Car celui qui a déjà oublié qu'il va revenir, c'est celui qui va se relâcher. C'est pourquoi je vous dis, on a intérêt à savoir et à nous souvenir qu'il va revenir. Il va revenir. Il va nous chercher. On peut se sauver, se cacher comme Adam et Ève. On peut mettre des feuilles sous le... Hein, n'est-ce pas? Mais il va nous chercher. Et Jésus, il a fait le tour du jardin. Il a trouvé tout de suite. Adam, où es-tu? Il a pu se cacher. Il est venu. Tu peux te cacher sous ton oreiller. Tu peux te cacher devant ta télé quand Dieu t'a demandé quelque chose de faire dans l'église ou dans ta famille ou dans ta société. Mais il va venir te chercher. Dis-le à ton voisin. Il arrive. Dis-le à ton voisin. Hein. Mais seulement, comme nous, on voudrait que le royaume de Dieu soit dans l'immédiat. Eh bien, nous avons un problème parce que ce ne sera pas immédiatement. Et pourtant, c'est sûr, il va revenir. Il va nous demander des comptes. Et ce temps, personne ne pourra le changer, car Dieu a sa montre. Il a la montre du Kairos et non pas de notre Chronos. Celui qui est en train d'espérer ici est en train de montrer qu'il n'est pas passif, mais il est actif. Ça veut dire qu'il attend, mais nous on croit souvent que l'attente c'est ça. Mais cet homme-là, il attend et parce qu'il attend, il bouge, il va chercher son règne. Dites avec moi, je vais chercher mon règne. Il va chercher sa destinée, il va chercher son couronnement. Il n'est pas là en train de rester comme ça. Il agit en fonction de la certitude qu'il a, de l'appel qu'il a reçu. L'action libère l'onction. Il agit, même s'il n'a pas encore reçu. Il n'est pas en train de dire, ah, Dieu m'a donné une prophétie. Je vais être comme ça, je vais être, non, je vais faire ci. Je vais, il va m'utiliser comme ça, j'attends. Il est dans l'attente, certes, il est dans l'espérance. Et donc, il va obtenir, il va chercher, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est pas ceux qui restent assis. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que c'est celui qui te met une grosse pêche dans la tronche qui est le royaume de Dieu. Non, ce sont les violents, ceux qui vont attraper leur destinée. Il y en a beaucoup qui croient que ça, on va l'avoir comme ça. Ça fait 2 ans que je travaille, nuit et jour, pour ça, vous ne vous rendez même pas compte. Parce que je vous en parle jamais. Mais ça, ça arrivera, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Je leur ferai avaler par n'importe où, mais ils l'avaleront. Alléluia. Parce que c'est le règne de Dieu sur cette ville pour laquelle on a prié. Mais non seulement on a prié, on le fait. La perspective de l'attente est une perspective d'action, est une perspective de travail. Et même ce qui est de l'ordre de l'eschatologie, de l'eschatologie, du retour de Christ, ne peut pas paralyser le chrétien. Parce qu'on va le voir, ici il va y en avoir des chrétiens paralysés. Mais cela doit encourager le chrétien à hâter l'accomplissement en allant agir, en allant prêcher, en allant témoigner. Car celui qui devait venir va venir et en attendant, nous, nous travaillons. Comprenez ? Il va venir, mais en attendant, mieux vaut pour nous que nous soyons en train de travailler. L'attente de l'intervention de Dieu et de son retour est une belle attente. Cette espérance est une bonne espérance. Il y en a qui disent sont des imbéciles heureux parce qu'ils espèrent ce qui arrivera jamais. Tu vas voir si ça ne va pas arriver. Ah, la France pourra jamais être chrétienne. Non, ça va voir si ça ne va pas arriver. Les gens ne peuvent pas changer. Leur famille ne peut pas changer. Un homme ne peut pas être fidèle. Ah, tu vas voir, ça ne va pas arriver dans ta vie si tu ne vas pas être fidèle à cette femme que tu as aimée. Ah, une femme ne peut pas arrêter de râler. Les hommes rient. Bon, moi je suis dans la perspective eschatologique. Hein? Je ne sais pas pourquoi soudainement tout le monde se tord de rire. Hein? L'attente de son intervention est une belle attente. Mais pour autant, tu ne peux, tu n'as pas le droit, ni ne dois dire, ni moi. Ben écoute, je fais rien, j'attends qu'il revienne, j'attends que ça vienne. J'attends la prophétie, j'attends l'accomplissement. J'attends que le pasteur m'appelle et qu'il me dise. Tu peux attendre longtemps et peut-être que tu attendras pour l'éternité. L'homme noble, lui, au contraire, le noble, celui qui est noble de cœur, celui qui est noble de sentiment, celui qui est noble, le vrai homme, le bel homme, celui qui va réussir sa vie, celui qu'on va admirer. Lui, il va, puis ensuite il revient, lui, il bouge. Et le fait d'aller et de revenir démontre l'espérance, démontre l'attente. Ça, c'est l'aspect eschatologique. Maintenant, il y a l'aspect de la vocation, de l'appel. Chacun a un appel. Ici, le maître appelle 10 serviteurs, 10 amis. Il le dit, j'ai confiance en vous, 10. Vous connaissez cette parole qui dit, il y a beaucoup d'appelés. Hein? Ah ben là, il y en a beaucoup, il y a 10 appelés là. Il dit, je vais vous lever d'une position que vous aviez de serviteur, d'esclave. Et je vais vous élever. Amen. Qui dit cela? Amen. Le Seigneur te dit dans ton entreprise, tu seras plus secrétaire, tu vas être dans le board de directeur. Tu seras plus seulement chauffeur, tu vas devenir assistant du patron. Tu vas plus seulement être femme de ménage, mais tu vas diriger l'entreprise et diriger 50 femmes de ménage. Qu'est-ce que tu dis? Amen ou tu dis non? En France, avec les 35 heures et le travail, nous a dit, ah non, faut pas trop travailler, hein, puis c'est dur, hein. Travailler, c'est trop dur. Après, c'est quoi? Et voler, c'est pas beau. Faire la charité, je sais pas faire comme eux, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Hein, c'est ça la chanson. Hein, je suis content, je connais un petit peu d'une chanson du monde. Hein. J'ai confiance en vous. Vous ne serez plus des esclaves, je vais vous élever. Cette position de celui qui a ni voix ni influence, dites avec moi, ni voix ni influence. De celui qui a été acheté par un maître. Acheté par une mentalité, acheté par le péché, asservi de celui qui est dominé, de celui qui est sur qui on exerce l'autorité. Je vais faire de toi quelqu'un qui va exercer l'autorité. Alléluia. Voilà ce que est en train de lui dire le maître.
Et c'est pourquoi je vais te donner 10 mines. Je vous promeux, d'une position d'exécutant à un niveau de liberté. Alléluia. Un autre niveau de liberté. Vous allez pouvoir vous-même prendre les décisions alors qu'avant vous ne faisiez que ce que les autres vous disiez. Je vous concède une condition d'entrepreneur. Voilà ce que ça veut dire. Je vous concède une position d'homme et de femme d'affaires. De ceux qui vont commander, planifier, décider, créer, oser. Certains en France sont choqués de cette vérité, car nous sommes habitués à tout quémander du roi Louis XIV, à rechercher les privilèges de la cour depuis des siècles. Pourtant, c'est biblique. Jésus, je vous donne la preuve. Je vous en donne la preuve maintenant. Jésus lui-même, à peine a-t-il 10 ans, 12 ans, dites avec moi 12 ans, qu'il répond clairement à sa mère, à Marie, il lui dit, il faut que je m'occupe des quoi? Il dit quoi comme mot? Non. Il n'était pas français ou quoi? C'est pas biblique. Il faut s'occuper des pauvres. Est-ce que Dieu dit ici, il faut que je m'occupe des affaires de mon peuple? Vous comprenez? Là, on va commencer à rentrer dans la révélation. Le problème, c'est que le temps passe. Si vous me libérez, je prêche. Libérez. Le pasteur m'avait supplié de ne pas faire long parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Sinon, je prêche, je finis la semaine prochaine. Ouais. Le pasteur me dit, t'en as pour longtemps avec l'espérance et l'attente que je dise non. Je dis oui, que ton règne vienne. Non, tu décides, pasteur. Tu décides. Je ne veux pas non plus toujours bouffer le programme. Je continue un petit peu et on se terminerait la semaine prochaine. Dans ces 10 serviteurs, il leur donne tous le même avenir, de devenir des hommes et des femmes entreprenants, qui prennent des risques, qui savent que la sécurité, elle est plus en Dieu que dans nos calculs. Elle est plus dans le fait d'accomplir la volonté pour laquelle Dieu nous a appelés que dans ce que nous sommes habitués à faire. Et que la perspective du règne qu'il a pour nous est bien plus haute que ça. Et, j'étais fatigué, Seigneur, tu comprends, en plus j'ai eu un problème physique. Va chercher ton règne, pourquoi est-ce que tu as été établi? La perspective de l'appel est la vocation de chaque serviteur. Tu es un serviteur, attention. Et des 10 serviteurs, ils prient pour chacun. Il leur confère un espace, il leur confère un territoire pour qu'ils s'y retrouvent, pour qu'ils puissent prouver ce qu'ils savent faire et qu'ils puissent prouver au Seigneur combien ils peuvent faire, ce qu'ils savent faire et combien. Et qu'ils puissent leur tester, parce que le maître veut tester leur intelligence d'action, d'une exécution, d'une tâche assignée, d'un risque à prendre, d'un investissement à faire, d'une recherche de règne à faire, d'une recherche de passer dans un autre niveau d'autorité à faire. Alors, on pourrait croire, bon, ça, il va les tester comme ça, mais il ne les laisse pas comme ça. Parce qu'en plus, il leur donne une mine. On pourrait croire une mine d'or ou quelque chose, mais une mine, c'était de l'argent. C'était une pièce d'argent qui valait beaucoup d'argent. Et chacun, remarquez, les 10, ils ont la même mine. Il n'y en a pas un qui a plus que l'autre. Dieu ne fait pas l'exception de personne. Tout le monde a le même Saint-Esprit. Le maître pourvoit à une base pour que chacun devienne entrepreneur, pour que chacun cherche la réalisation du règne de Dieu dans sa vie. Les 10 ont la même chose. À l'intérieur de cet appel, ils vont pouvoir démontrer au roi comment ils ont su administrer cette liberté nouvelle conférée. Tu as cet argent, c'est une liberté que je te donne. Quand t'en avais pas, souviens-toi, tu n'avais pas cette même liberté. Maintenant, t'en as, tu as de l'argent sur ton compte. Et puis surtout, tu as un avenir, tu as des contrats. Maintenant, tu as cette liberté. Maintenant, le Seigneur va attendre et dire, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Car faire ce qu'on nous a dit de faire, mes amis, c'est une chose. Et faire tout ce qu'on nous a dit de faire, c'est une chose. Mais être libre et choisir ce que l'on fait, c'en est une autre. Être libre et choisir ce que l'on fait, c'en est une autre. Demandez à un entrepreneur s'il veut redevenir employé, c'est très rare. Même si c'est dur. Il y a des gens qui sont bons que pour faire ce que des autres leur disent de faire, qui recherchent toujours une voie pour faire ce que cette voie leur dit. Mais au jour où il n'y a plus de voie, ils n'ont plus aucune initiative. Ils n'ont plus de projet, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus d'idées, plus de liberté, pas de décision, pas de pensée claire pour leur vie. Et dès lors, ils subissent une déperdition de liberté.
Tout comme le chrétien qui ne gère pas bien sa nouvelle liberté en Christ va subir cette déperdition de cette liberté. Car ils ne savent pas utiliser leur liberté, leurs moyens nouveaux, cette mine nouvelle, cet espace nouveau, cette liberté nouvelle. Et dans cette perspective vocationnelle, c'est pas français mais j'aimerais bien l'employer quand même, cette perspective vocationnelle, donc de la vocation, de l'appel, ils avaient, ces jeunes, tous ces 10-là, une opportunité unique. Dites-moi, opportunité unique. Car souvent, les opportunités sont uniques. Et je n'ai pas le temps, mais peut-être un jour aurai-je le temps de vous mettre en cohérence la réalité de l'opportunité unique de l'appel et de la création du royaume de Dieu avec le fait d'attrister le Saint-Esprit ou non. Peut-être un jour, j'essaierai de vous montrer une autre manière de comprendre ce qu'est attrister le Saint-Esprit, le péché qui n'est pas pardonnable. Il y a des opportunités uniques. Moi, il y a des gens qui me disent « Pourquoi tu persévères? Pourquoi tu t'entêtes ?» Parce que c'est la seule opportunité que nous avons. Dieu m'a parlé, je sais. C'est ça. Et j'aimerais vous dire, il n'y en a que quelques-uns qui sont derrière moi. Peut-être tous, vous êtes tous derrière moi dans la prière, mais enfin, ça ne suffit pas. Mais merci beaucoup quand même. Mais je crois que c'est une opportunité unique. Et ça vaut la peine que je donne ma vie, que je prenne tous les risques de ma vie. Même au risque d'être ruiné, parce que c'est une opportunité unique. Comme Pascal, un jour, tu as su déterminer une opportunité unique. On va voir ce qui va se passer. Mais c'était une opportunité unique. Seigneur, quand je réfléchis à ça, je pense à moi. J'ai dit, purée Seigneur, quelle opportunité. Laura, Juan, je me permets de vous dire quelque chose. Vous avez une opportunité unique d'être dans ce pays. Le Seigneur de ce texte, le roi, qui n'était pas le Seigneur, c'était simplement un homme d'affaires, c'était un homme de haut rang. En plus, personne ne l'aimait bien. Il gonflait tout le monde. Il leur dit, pourquoi tu rigoles? Il leur dit, fructifiez-vous. Fructifiez, faites fructifier, développez, faites valoir. Dites avec moi, faites valoir. C'est la Bible, hein, c'est pas mon mot. Faites valoir. En espagnol, on dit aussi négocier. Puis plus tard, quand il revient, il dit, allez, maintenant vous allez me rendre des comptes. Combien? Dites avec moi, combien? Nous, on croit que quand on sera sauvé, le Seigneur nous dira bon et fidèle serviteur. Vous savez ce qu'il va nous dire d'abord? Avant de nous dire bon et fidèle serviteur, il va nous dire combien? Vous ne me croyez pas, vous relisez la Bible. Il va me dire, combien, Freddy, combien? Combien, Freddy, avec les dons que je t'ai donnés? Combien, Freddy, avec l'intelligence que je t'ai donnée? Enfin, s'il m'en a donné. Combien, Freddy, avec les talents que je t'ai donnés? Combien avec le temps que je t'ai donné? Combien t'as dormi? Combien t'as travaillé? Combien t'es resté? Combien t'as dit là les autres? N'oubliez pas ce mécanisme, hein, toujours. Il est parti et il est revenu. N'oubliez pas. Il est parti. Il est revenu. Seulement lorsqu'il revient, ça n'est plus un homme noble. C'est qui? Qui est-il? C'est un roi. Pourquoi? Parce qu'il a pris un règne. Et remarquez que ces hommes qui ont été promus au rang d'hommes d'affaires, qui étaient et qui ont quitté, et qui ont dit au revoir un jour, adieu, à bientôt, à plus tard, à un homme noble, quand cet homme d'affaires, capitaliste, investisseur, homme qui réussit, homme qui veut que le règne vienne, tout ce que vous voulez dire. Lorsqu'il revient, eh bien, il ne traite plus seulement avec un homme qui entreprend sa vie seulement, mais il traite avec un roi. Et là, quand on traite avec un roi, c'est autre chose. Parce que le roi a puissance de vie et de mort, il a puissance de ruine ou de richesse, d'élévation ou d'abaissement, de prison, d'emprisonnement ou de liberté. Et celui à qui ils vont devoir rendre des comptes, c'est pas celui, le copain d'entre eux, Jean-Claude Tartampion de là-bas, qu'ils s'attendent à voir revenir. Le Seigneur méprisé qu'on voyait sur la croix, et puis celui à qui personne ne regarde son regard, celui ne jette un regard sur lui, le méprisé, celui sur qui on a craché. Celui qui revient, c'est le roi, et le roi des rois. Et je peux vous dire que la Bible nous dit qu'il revient avec des yeux de feu. On a dit tout à l'heure, tout le monde vous a dit, on veut du feu. Qui veut du feu encore? Amen. Qui veut le feu de Dieu? Vous voulez encore le feu de Dieu? Vous allez déjà le trouver dans ses yeux, vous allez voir. C'est pas pour vous faire peur, moi Dieu est un Dieu d'amour. Je l'aime tellement, je l'aime tendrement, il m'aime tendrement. Mais je sais une chose, c'est que celui à qui ils vont devoir rendre des comptes, c'est plus seulement l'homme qu'ils ont quitté, le copain qu'ils connaissaient, celui qui les dirigeait avant, le serviteur qui les dirigeait avant. Mais ils vont pas rendre des comptes seulement, ou s'il était pasteur, à ce pasteur-là. C'est au roi en personne. Mais ce qui va arriver plus tard, c'est spectaculaire et je voudrais vous le montrer, c'est la perspective de la récompense. Tous sont appelés, tous reçoivent la même chose et Dieu demandera des comptes à tous. Or, remarquez que sur les 10, il y en a seulement 3 qui vont revenir. Ça veut dire que, je me pose la question, où sont les autres, les 7? Où est-ce qu'ils sont allés? Ils sont partis où, les 7 là? Il a donné la même chose aux 10, il les a appelés tous, remarquez, il les a tous rappelés. Et il y en a déjà 10 qui ne sont plus là. Quelqu'un me disait tout à l'heure, je les vois plus. Ils sont où? Quelqu'un me disait cela. L'homme qui revient n'en voit plus que 3 serviteurs. Cet homme qui avait 10 hommes, 10 amis, 10 personnes de confiance, 10 personnes en qui il avait mis du talent, des capacités, il avait un projet, il voulait développer un pays, il voulait évangéliser le pays, il voulait en faire des affaires, il voulait le fructifier pour pouvoir faire encore plus de choses parce qu'il avait en vue autre chose. 10 hommes qu'il a promus, alors qu'ils n'étaient que des petits serviteurs inconnus, des gens qui n'avaient pas forcément bien réussi leur vie, ou même s'ils avaient un peu réussi, il avait mis 10 espérances, le roi perd 7 personnes, c'est-à-dire qu'il perd non seulement les personnes, mais il perd aussi les 7 mines, tout l'argent qu'il avait mis dedans, et c'était beaucoup d'argent. Alors mes amis, quand on voit ça, on peut dire, purée, ce roi-là, c'est pas un bon investisseur, parce que purée, quand on perd 7 ressources humaines, 7 grosses sommes d'argent sur 10, ça veut dire que 7 ne sont pas présentés et n'ont pas voulu lui rendre des comptes, ça veut dire 70% de perte de ressources humaines, 70% de perte de potentiel sur un projet que tout le monde avait voté au départ, comme nous quand on l'a eu au début, qu'on a voté un peu, n'est-ce pas? 70% de l'investissement, il l'a perdu. 70% du capital a disparu. Et ben, quand je me dis, si je vais voir les banquiers, d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe, que je leur dis, j'ai perdu 70% des gens pour prendre compte. 70% de l'argent des dîmes, parce que ça rentre presque plus au point qu'on espère qu'on ne devra pas fermer. Mais 70% de gens qui ont voté, et puis 70% Seigneur de risque que ça marche pas mon affaire, 70% que je puisse pas payer, 70%, mais je vous assure, vous allez voir n'importe quelle banquier, n'importe quel comptable, n'importe quel homme intelligent, il vous dit ne mettez même pas la patte. Ils commencent à vous prêter seulement s'ils ont l'impression qu'il y a au moins 95% que ça part pas, et au moins je pense 99% avec la crise des subprimes. Mais le Seigneur, même s'il sait qu'il a 70% de chances que tu te plantes, celui qui investit, réinvestit, prend des risques. Il prend toujours des risques. Celui qui investit pour que le règne vienne, il prend des risques. Et le Seigneur n'a pas hésité un instant à donner sa richesse, à donner de sa richesse, en préférant risquer de se tromper, risquer même de perdre tout cela. Et il en a perdu. Il a préféré risquer cela que de ne pas croire et de donner raison à ses doutes. Car il savait que il devait douter de ses doutes parce que ses doutes sont redoutables en termes de logique du royaume de Dieu. Même si nos doutes sont très valables en termes de logique du royaume humain, de la logique de l'immédiateté et de la sécurité de notre cœur. Ici, le maître investit quand même. Et pourtant, on sait tous qu'il est omniscient, notre maître, et qu'il savait bien. Et si on prend le temps d'analyser pourquoi 7 d'entre eux ne sont pas présentés, on trouvera plein d'excuses. On trouvera plein de raisons, elles seront toutes valables. Ils avaient tous des raisons valables pour ne pas se présenter à l'appel précis que Dieu leur avait demandé. De multiples raisons ou des explications, vous allez en trouver. Mais le cadre de cette parabole est très clair. Et pour moi, il ne souffre d'aucun doute. Il est clair pour moi qu'aucun d'entre eux n'a la possibilité de se justifier valablement, même s'il a toutes les excuses du monde. Aucun d'entre eux n'est justifiable aux yeux de ce serviteur-là, parce qu'ils ont reçu un espace, ils ont reçu une nouvelle opportunité, ils ont reçu une confiance, ils ont reçu une demande, ils ont reçu une mine. Mais la raison principale, c'est que c'est pas toutes leurs excuses, c'est pas les peurs qu'ils avaient de l'avenir uniquement. On parlera de la peur et de la gestion de l'argent un jour, et aussi de l'amour de l'argent. Mais la raison, et moi c'est ça que je voudrais dire, j'interprète leurs sentiments. La vérité aux yeux du maître, et je vous en donnerai la preuve biblique, c'est qu'ils ont dit, j'en ai rien à faire de la liberté qui m'a été conférée. La mine ne m'a pas intéressé.
L'opportunité de servir qu'on m'a donnée ne m'a pas intéressé. L'opportunité de prospérer ne m'a pas paru valable. Elle ne m'a pas paru opportune. Elle m'a paru risquée. Développer mon potentiel ne m'a pas intéressé. Multiplier, prendre des risques, obéir ne m'a pas intéressé. Que je puisse faire croître mes talents, mon savoir, que je puisse me rendre disponible, que je puisse travailler avec ce que j'avais, mes compétences, mon habileté, ça ne m'a pas du tout intéressé. Offrir de mon temps, donner des heures, donner un peu ce que j'ai, agrandir l'espace social, l'espace ecclésial, l'espace de service, l'espace professionnel qu'on m'a conféré ne m'a pas intéressé. Faire le bien. Bien faire ne m'a pas intéressé, comme ça ne m'a surtout pas intéressé de devoir un jour rendre des comptes à quiconque. Et c'est pourquoi j'ai fait partie de ces 7 qui se sont barrés et qui ne sont même pas venus rendre des comptes. Car à moi, personne ne me demande des comptes. Je suis libre. Je ne suis pas sous autorité. Je n'ai rien à dire. Je fais ce que je veux. Je suis dans mon pays, je suis sauvé, tout va bien. Ils ont dépensé, ils ont gaspillé, ils ont annulé, ils ont mangé les mines. Où sont passées ces mines? On ne les voit plus, elles sont disparues, envolées. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais en tout cas, il n'y en a plus. Plus personne ne les voit plus jamais, ni eux, ni les mines qu'ils avaient. Là, c'est prophétique, on ne les verra plus. Ainsi, ce roi ne perd pas seulement beaucoup d'argent, 7 mines sur 10, mais il perd aussi 7 personnes, 7 potentiels de croissance, 7 espoirs. C'est une très grande perte pour un royaume, c'est une très grande perte pour une entreprise quand tu perds 70%, c'est une grande perte pour une organisation, c'est une grande perte pour une campagne d'évangélisation, c'est une grande perte pour une église, c'est une grande perte quand... Mais enfin bon, quand même, il y a une bonne nouvelle dans ce texte, c'est qu'au verset 16, il y en a 16, il y en a 3 qui pointent le nez. Ils arrivent, le maître nous a appelés, ils arrivent quand même. Remarquez que dans ce texte, le roi ne leur demande même pas où sont les autres. La Bible ne nous dit pas, il ne pose pas la question, où sont les autres? Il les a déjà oubliés. Il ne s'est pas inquiété, tant pis. Il a dit, c'est perdu, j'en ai 3 qui m'en restent, il faut voir ce que je vais faire avec ces 3-là. Même s'il faut refaire, il n'a pas regretté, mais par contre, il est déterminé à leur demander des comptes. Et puis, je peux vous dire que moi, quand je prie mon Seigneur et que je pense un peu à la tâche qui m'est assignée, je réalise que vraiment, à quel point des comptes vont m'être rendus. Et c'est là où on arrive au cœur de la révélation, quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais vous révéler. Est-ce que vous le voulez? C'est sûr? Alors revenez la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.